Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, un de ses ex-présidents, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy, bonjour à tous.
Voilà, et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Alors bon, j'ai annoncé dernier vendredi du mois, mais un petit contretemps de calendrier nous a fait reculer ce rendez-vous d'une semaine, et vous l'écouterez donc sur nos ondes de Radio PFM le premier vendredi du mois de décembre. Mais il y aura une émission, Hervé, aussi le dernier vendredi du mois de décembre.
Eh bien absolument, absolument.
Alors, chose promise, chose due, le mois dernier, contrairement à ce que nous avions annoncé, nous n'avons pas eu le temps de parler de Trois jours chez ma tante, un roman signé Yves Ravet, aux éditions de Minuit. Eh bien, ce sera chose faite dans quelques minutes. Et puis, nous resterons dans l'Hexagone avec au sommaire aussi, ce mois-ci, le deuxième roman de Jackie Schwartzmann, Demain, c'est loin, dans la collection Cadre noir des éditions du Seuil. Hervé, donc, chose promise, chose due, comme je l'ai dit, hein, effectivement, Yves Ravet aux éditions de Minuit, Trois jours chez ma tante, on reviendra sur le titre, avant de revenir un petit peu sur le parcours d'Yves Ravet, rappeler à nos auditrices, nos auditeurs, que c'est dans un édito de 813, d'il y a peut-être un an ou un an et demi, où tu évoquais justement la sortie du précédent roman de Yves Ravet, que tu m'as donné envie de découvrir cet auteur. Donc je l'ai découvert à cette occasion, et maintenant un nouveau roman est sorti, et c'est avec aussi encore une fois un grand plaisir que j'ai lu ce roman, donc grâce à toi. Alors édition
merci, écoute.
Voilà. Et édition de Minuit, tu écrivais Minuit, l'heure du crime. C'est sûr que les éditions de Minuit sont pas...
Alors j'avais mis un point d'interrogation quand même.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais... sont pas vraiment réputées pour le roman autour du crime. Néanmoins, quelques auteurs des éditions de Minuit... se situe aux frontières, ou même peut-être carrément dans la littérature, les littératures que nous apprécions, les littératures noires.
Alors oui, c'est pour ça que comme ailleurs, il faut toujours quand même se méfier des frontières, parce que effectivement, bien évidemment, Minuit, c'est Marguerite Duras, c'est Rob Grillet, c'est le nouveau roman, c'est aussi les écrits d'opposition à la guerre d'Algérie, mais c'est également, j'allais dire, peut-être que le bal a été ouvert à l'époque avec Jean Echenoz et son Cherokee, mais c'est aussi Tanguy Viel, dont on a parlé... sur cette radio il y a quelque temps, et puis c'est Yves Ravet, qui sont des gens qui indéniablement possèdent les codes du polar, du roman noir, jouent avec et font d'ailleurs d'authentiques romans noirs. Je pense que ça n'a pas été une erreur de casting quand le festival du film policier de Beaune a donné le prix du roman noir à un notaire peu ordinaire, d'Yves Ravet, dont nous parlons aujourd'hui.
Voilà, et un notaire peu ordinaire, c'est un roman qui est sorti en 2013.
Ouais.
Ensuite, il y a eu La fille de mon meilleur ami, et puis Sans état d'âme, hein, donc en fin de compte, c'est Sans état d'âme, hein, dont tu parlais dans ton édito dans 813 en 2015. Mais on s'aperçoit que c'est quand même un auteur, donc quand on regarde les livres qu'il a écrits, qui sévit, entre guillemets, depuis quand même 1992 aux éditions de Minuit. Donc il est très fidèle aux éditions de Minuit, avec un premier roman publié aux éditions de Minuit, Bureau des illettrés. Donc c'est aussi quelqu'un qui a une certaine expérience de...
Tout à fait, et qui avait tout d'ailleurs pour attirer aussi l'amateur de polar et de noir, puisque juste avant les titres que tu as cités, il y avait eu un livre qui s'appelait Enlèvement avec rançon, ce qui quand même indéniablement... avait à voir avec le genre qui nous intéresse là, dans les différents livres de Ravet, tous ces titres que tu as cités, c'était toujours des fictions en général pas très longues en nombre de pages, mais avec une tension intérieure et toujours des histoires des crimes divers, puisque le crime n'est pas forcément de sang, mais avec toujours des escroqueries, des kidnappings, tout cela pouvant aller jusqu'au meurtre, et avec des personnages comme celui qui nous importe aujourd'hui, qu'on peut dire sans état d'âme et escroc également.
Tout à fait. Donc il s'agit de Marcelo, alors attention, on va pas se tromper, Marcelo Martini, hein, non pas.
Oui.
Marcelo, parce qu'on a envie de dire Marcelo Mastroianni là, avec tous les i, donc c'est bien Marcelo Martini qui après...
Je vois que tu imagines le film dans ta tête.
Qui après... mais c'est vrai que y a une forme comme ça de chez ce personnage de... d'une certaine, j'allais dire dilettante, c'est pas tout à fait le mot, mais de retrait, quoi, de recul, quelqu'un qui est un peu comme pouvait l'exprimer Marcelo Mastroianni dans ses films, voilà, un petit peu en décalé. Et donc ce Marcelo Martini, après 20 ans d'absence, il doit rendre visite, il n'a pas vraiment le choix, hein, à sa tante.
Il est convoqué,
il est convoqué. Il est convoqué, mais bon, il a intérêt à s'y rendre, hein, puisque sa tante est une vieille dame fortunée qui finit ses jours dans une maison de retraite. Hein, c'est sa tante qui l'entretient en quelque sorte, hein, puisque...
Oui, alors lui, il est 20 ans auparavant, on ne va pas forcément tout révéler, mais enfin 20 ans auparavant, il est parti un peu en quatrième vitesse, il a quitté la France, et il est actuellement au Libéria, quand il reçoit la missive de sa tante. Au passage d'ailleurs, tu évoquais l'acteur auquel te faisait penser Marcelo. Il est drôle que la tante s'appelle Vicky Novak.
Et oui, tout à fait.
Voilà, il y a des clins d'œil cinématographiques,
oui,
peut-être.
Oui, oui, oui.
Mais il est au Libéria où, j'allais dire que en théorie, il remplit une mission humanitaire et pédagogique. Voilà, le récit nous en apprendra peut-être, ira peut-être au-delà de ces apparences-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui n'est d'entrée de jeu n'est pas extrêmement sympathique, mais on pourrait avoir envie de le plaindre un peu, d'autant que c'est la grande force du livre, c'est que c'est lui, il est le narrateur, c'est lui qui raconte d'un bout à l'autre, et on peut suivre le cheminement de son art de la dissimulation, du mensonge, de l'obséquiosité, et parfois aussi d'une franchise certaine.
Oui, donc je repensais à ce que tu disais. Donc 3 jours chez ma tante, avec aussi cette particularité. Alors bon, on va pas bien entendu donner la fin de ce roman, révéler ce qu'il en est, même si bon, le mot escroquerie a été, tu l'as prononcé, et bon, on s'en doute. Mais en même temps. Il y a une situation assez bizarre, puisque bon, cette tante, Madame Novak, est le seul lien familial qui lui reste. Sa mère, il a perdu sa mère, oui. Donc il y a longtemps. Et alors, même si cette tante fait figure d'une vieille dame, donc qui tout à fait honnête. On peut se demander si elle n'a pas aussi, elle, à se faire pardonner des choses.
Oui, c'est de toute façon, c'est ça qui est intéressant avec Yves Ravet, c'est que il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des faux semblants, il y a toujours on n'est bien évidemment pas dans des, il n'y a pas le méchant neveu et la gentille tante, les rapports sont complexes. C'est de toute façon ce livre qui raconte une histoire, bon, d'escroquerie, qu'on ne révélera pas, mais on s'en doute assez vite. Une histoire aussi de dénonciation, d'histoire de lettres anonymes, qui renvoie 20 ans auparavant. C'est aussi l'histoire d'une relation affective entre cette tante et ce neveu, puisque c'est exactement ce qu'annonce le titre du livre. Il va s'agir de 3 jours passés chez sa tante. Il revient en France. Il faut qu'il arrive à la convaincre de continuer à lui envoyer le chèque mensuel qui lui permet de scolariser avec des guillemets les jeunes enfants du Liberia. C'est aussi évidemment tout ça entremêlé de l'histoire, d'une histoire argent-famille qui ne donne pas toujours les résultats les plus, comment dire, les plus charitables ou les plus francs du collier qui soient.
Avec quelques scènes, Hervé, qui frôle aussi le comique, hein, notamment la signature, enfin la signature, on va rien dire non plus, mais le temps que va prendre effectivement la signature du chèque par la tante, avec des histoires de stylos.
Je pense que quand même c'est quand même un livre qui doit faire dans les 170 pages et dans lequel il y a et de manière très subtile, on a quand même 10 pages pour que la tante arrive à venir à bout de l'écriture d'un chèque. Je pense que c'est un record littéraire. Mais voilà, avec quand même ce style d'Yves Ravet, ma tante a repris sa signature à l'extrémité de la première boucle, suivie d'une succession de spirales plutôt élégantes, sans trembler, et je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'avais perdu le souvenir de la signature de ma tante, que j'avais pourtant connue par cœur autrefois, falsifiée en bon nombre de circonstances, je dois le reconnaître aujourd'hui, notamment lors de mes transactions en complicité avec Walter. Posant le stylo-plume sur la table sans remettre le capuchon, Vicky a dit à Lydia qu'elle voulait lui parler. Seul à seul a-t-elle précisé. Le mieux donc était de sortir aussitôt, de ne pas compliquer la situation maintenant que je touchais au but.
Donc voilà un extrait, merci pour cet extrait, Hervé, de 3 jours chez ma tante de Yves Ravet. Alors, bon, on l'a dit aussi, bien sûr, c'est une écriture, une atmosphère. Et là, je trouve que bon, c'est aussi un roman sur la vieillesse, hein, bien entendu, celle de la tante, et puis la vie en maison de retraite. Donc là, bon, c'est quand même une maison de retraite luxueuse. On n'est pas dans une EHPAD comme on a pu l'évoquer évoqué il y a un mois avec le roman
avec la Daronne. Oui.
Avec la Daronne. Néanmoins, on est toujours dans ce dans ces lieux hein, de fin de vie où bon règne une atmosphère particulière. Et je trouve que le style, l'atmosphère que crée Yves Ravet avec ce roman, eh bien, en fin de compte, avance au rythme de ce qu'on peut s'imaginer d'une vie en maison de retraite. Il se passe pas grand chose. Tout semble, le monde semble vraiment bien bien loin de ce lieu, la maison de retraite. Tout y arrive un peu flou, mais en même temps, il y a une forme de lucidité des personnes qui y vivent. Je suppose
tout à fait, tout à fait. Ouais. Et la lenteur du récit, qui est un plaisir de texte absolu, mais la lenteur du récit épouse exactement ce que tu dis. Mais ce qui est très bien, c'est que la question Yves Ravet n'est pas ne relance pas. Enfin, il n'y a pas une intrigue hyper compliquée.
Non,
c'est pas son genre. Mais il y a au milieu de ça, et ça ajoute aussi à l'humour des situations. Il y a cette lenteur, cette espèce de pesanteur dans laquelle un peu de toile d'araignée dans laquelle Marcello est pris. Et en même temps, il y a de loin en loin les coups de fil depuis le Liberia et depuis l'école qu'il dirige. Enfin, ouais. Les coups de fil d'Honorable qui lui dit que c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, je crois, qui doit venir visiter l'installation, et les coups de fil se font de plus en plus inquiets, et ça crée évidemment de la tension et aussi de l'humour, je dois dire, vu les réponses que fait notre narrateur. Et puis il y a chez Yves Ravet, dans cette atmosphère lente, un peu oppressante, il y a une accumulation de détails qui pose une ambiance, qui crée un peu le suspense. Yves Ravet, c'est un auteur qui lui-même se dit matérialiste, qui n'est pas du tout, il y a jamais l'ombre d'une analyse psychologique de ce genre de choses.
Oui.
C'est vraiment un art du comportement qui est là, et avec ces atmosphères, ces ambiances un peu grises à la Simenon, de quelqu'un qui, selon les mots de Simenon d'ailleurs, là, veut comprendre les personnages et pas les juger. Enfin, je ne sais pas si tu le ressens ainsi, mais
j'allais y venir, parce que donc figure-toi que j'avais repris ton édito dans 813 sur le précédent roman de Yves Ravet, où tu écrivais Hervé, que un Ravet se déguste comme un Simenon.
Ah donc, bah écoute, donc je persiste. D'autant qu'en plus, dans 3 jours avec ma tante, chez ma tante, pardon, il y a encore, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire que dans cette histoire tante-neveu, avec ce séjour un peu obligé pour décrocher le chèque, il y a un rebondissement. Un rebondissement qui n'est pas un meurtre soudain, quelque chose comme ça, mais va surgir une autre histoire de la vie de Marcello, qui est son ex-femme et sa fille Rebecca, qu'il n'a en gros jamais vue. Enfin, voilà. Et ça, c'est aussi une autre histoire à l'intérieur de cette fiction.
Alors, tu as évoqué Simenon. Moi, j'ai aussi pensé à Frédéric Dard, la vieille qui marchait dans la mer. Parce que le personnage de la tante, il est quand même, je trouve, très, très intéressant.
Complètement. On suit le point de vue du narrateur, mais en même temps, ça n'est pas un... j'allais dire qu'elle a une forte personnalité, elle est également touchante, mais elle est costaud, la tante.
Et puis
rapport est passionnant.
Tout à fait, puis elle est lucide, je pense. Elle sait très bien, bien ce qui se passe.
Sait ce qui se passe, elle sait qu'elle est le zigoto. Oui.
Voilà. Oh, bah, très bonne, le zigoto, voilà. C'est très, très beau mot de conclusion hein, pour ce roman, Hervé, que nous conseillons fortement.
3 jours
chez ma tante de Yves Ravet aux éditions de Minuit. Vous écoutez Variation en Noir dans Variation sur Radio PFM avec Hervé Delouche de l'association 813. Hervé,
eh bien, nous voilà réveillés.
Voilà. Alors, Hervé,
ce morceau entraînant.
Voilà. Donc, je pense que tu as reconnu. Allô.
Vas-y.
Oui. Donc, c'est aussi une histoire de, c'est aussi une histoire de famille, la famille Young, des musiciens australiens d'origine écossaise, une famille assez nombreuse, dont deux des frères ont créé le groupe ACDC. Hein, il y a de ça quand même quelques années. Et
oui.
Donc, bon, j'ai choisi ce morceau pour saluer, hein, puisqu'on a appris le 18 novembre dernier, la mort du cofondateur donc de ce groupe, Malcolm Young.
Oui.
Alors,
d'accord.
C'est
donc,
alors c'est voilà hein, c'est pas le celui qui était le plus connu, qui était en avant de la scène, c'est pas Angus, hein, que tout le monde connaît dans son costume de lycéen, qui guitariste émérite mais aussi pitre hein, sur scène. Lui, Malcolm, c'était le frère aîné, et il était toujours en retrait, guitariste rythmique devant un mur d'enceinte Marshall, et lui, bon, voilà, c'était la rythmique, mais bon, un sacré musicien. Et puis donc ce morceau Riff Raff de 1978, l'enregistrement en public, extrait du disque If You Want Blood You've Got It, je pense que c'est ça, avec au chant le regretté, mais lui ça fait un moment qu'il est parti, Bon Scott. Voilà, donc c'était une forme de salut à Malcolm Young. Hervé, donc voilà, c'est encore une fois toi qui m'as mis dans les mains quelque part le roman de Jackie Schwartzman. Demain c'est loin, donc on reviendra sur le titre qui est édité chez Seuil dans une collection assez récente, Cadre Noir. Peut-être un mot pour commencer sur Cadre Noir, Hervé.
Bien, pendant le Seuil avait une collection depuis 20-25 ans qui s'appelait Seuil Policier, et au début de cette année-ci, de 2017, Seuil Policier a fait une mutation et est devenu Cadre Noir, avec continuant la publication d'auteurs. D'auteurs étrangers dont on a pu déjà parler ici, et développant un secteur de romans noirs français. Il y a déjà eu Récit d'un avocat d'Antoine Bréa, Hôtel du Grand Cerf de Franz Bartelt, et Jackie Schwartzman et son Demain c'est loin, et le troisième sur le côté français de Cadre Noir.
Qui est... Donc le livre est édité, moi c'est elle qui dirige la collection, par Gwenaëlle Denoyer.
Voilà.
Ouais, que l'on peut lire aussi régulièrement avec toi d'ailleurs, hein, vous co-signez un certain nombre d'articles dans la revue 813, et que l'on a pu rencontrer aussi au Salon du Livre du 1er mai à Arras régulièrement au niveau du plateau 813 qui co-anime avec toi des rencontres.
Voilà, absolument.
Alors, demain c'est loin. Oui, alors bon, on va y aller tout de suite, puisque tu me laissais entendre que ça aurait pu aussi inspirer un choix musical, ce titre.
Bah parce que si je me trompe pas, Demain c'est loin, c'est le titre d'une chanson du groupe marseillais IAM qui était dans ce disque qui a eu un gros succès à l'époque. Il était L'école du micro d'argent, oui. Et Demain c'est loin, ça racontait un peu, c'était une chanson assez longue qui racontait, qui parlait de la vie des cités, ce qui est un peu raccord peut-être avec le roman dont on va parler là.
La liaison est toute faite, puisque on on est quand même, hein, on est quand même dans la cité, avec donc avec un personnage étonnant. Hein, j'avais un nom de juif et une tête d'arabe, mais en fait j'étais normal. Et donc voici François Feldman, originaire de la cité des Buers à Lyon. Donc
ni arabe et qui n'est pas le chanteur non plus.
Voilà. Donc alors d'entrée de jeu, ça permet de hein, de dire que là on est quand même dans un roman. C'est du roman noir, je vais pas dire comique, mais complètement décalé en fin de compte, Hervé.
Ah oui, absolument. Déjà, dès le ton du livre, la manière dont se présente François Feldman, ce personnage qui est un gars qui est venu des cités de l'agglomération lyonnaise avant de bouger, de rejoindre le centre. Comme il dit, je viens de la cité des Buers, tout le monde connaît à Lyon, ça craint les Buers. J'ai tellement traîné avec les Arabes depuis toujours que je les connais par cœur, je suis comme eux, j'aime pas trop le porc, et ça m'est même arrivé de faire le ramadan pour faire comme les potes. Je parle comme eux, je pense comme eux, j'ai une calvitie à la Zidane, et comme eux, j'ai pas une très haute idée des femmes. Pour résumer, depuis que je suis gosse, on m'appelle soit le juif, soit le rebeu blanc. Cela dit, tout le monde se retrouve sur un point, mon troisième surnom, le gros. Voilà, ça va être le personnage, il est campé comme ça, on peut ajouter un nom de juif, une tête d'arabe, le physique de Philippe Seymour Hoffman et la domiciliation au Buers, c'est ce qu'on peut appeler un mauvais départ dans la vie. Mais François, il a la pêche, il a des projets plein la tête.
Et il a quitté
sa
cité.
Pour s'en sortir, pour réussir, il a plein d'idées qui sont plus ou moins heureuses. Là, actuellement, il a ouvert une boutique dans le centre de Lyon.
Oui, il a quitté sa cité. Hein,
Ouais, qui est une boutique où il fabrique des suites et des t-shirts qui ont pour originalité d'être des fausses citations d'hommes célèbres, alors qui sont en général d'un goût que certains pourraient trouver mauvais, douteux et tout, mais qui peuvent être aussi considérés comme franchement hilarants. Et l'histoire de Demain c'est loin, ça va être l'histoire d'un choc, d'une collision, au propre et au figuré, parce que au début de Demain c'est loin, François Feldman, il est comme le neveu du roman de Ravet, il est convoqué lui aussi, et il est convoqué chez sa banquière, mais peut-être je te laisse en dire un mot.
Oui, il est convoqué chez sa banquière, hein, parce que son affaire, elle est braque-ballante, hein, et donc lui, il a toujours des idées, mais qui ne convainc pas du tout. Il est dans le rouge et il essaie toujours d'avoir une rallonge. Sa banquière Juliane BCBG elle le regarde toujours de très haut, mais on va pas expliquer ce qui s'est passé, mais un événement, tu as évoqué la collision effectivement dans tous les sens va les réunir. Alors là ensuite dans des péripéties dignes, on en parlait au téléphone, hein, de Westlake et son Dortmunder, tu évoquais Jan Levison, moi je pense aussi à Douane Svierzinski. On est un petit peu dans un schéma pied nickelé en fin de compte.
Oui, complètement, avec aussi une des choses, la collision évidemment, en dehors de celle que le lecteur découvrira, bien réelle. C'est aussi comme dans un roman d'Elmore Leonard qu'a donné le film Hors d'atteinte de Soderbergh, c'est-à-dire deux personnes que rien ne prédispose à se rencontrer. Je crois que dans le film de Soderbergh, c'est Clooney qui est un braqueur et Jennifer Lopez qui est une flic, une fliquette et bref. Et là, Que ce soit François ou Juliane, ce sont deux personnages qui viennent de milieux totalement différents, opposés. Ce sont deux Frances différentes, des cultures complètement... ils n'ont pas les mêmes codes, même quand ils se parlent. Lui, il fait une blague, elle comprend absolument, elle n'entrave rien, enfin, etc. Et elle dit, elle fait partie, à un moment il raconte, elle fait partie de ces personnes qui ne disent pas par contre, mais en revanche, enfin bon, voilà, il y a des détails comme ça. Et elle est, lui évidemment, par son origine, n'est pas, est loin d'être raciste, elle est un peu limite très réac parfois. Mmh. Et ils vont être, par la force des choses, en fait, de ce qui va se passer, ils vont être pris dans une espèce de cavale endiablée, avec plein de rebondissements, et ils vont être obligés, ils doivent faire cause commune, donc au départ ils ne peuvent pas communiquer, ils n'ont rien à se dire, mais ils vont être obligés de faire ensemble, et ça va bâtir, ça bâtit un roman qui est effectivement plein de drôleries.
Avec Hervé, on peut le dire, avec l'aide du père, qui va jouer un rôle prépondérant, du père de la banquière, Juliane, où on s'aperçoit en fin de compte que les personnes qui arrivent dans la société, bien souvent, c'est pas toujours très clair non plus.
Non, pas du tout, pas du tout. Et de l'autre côté, alors ça, de toute façon, il n'y a aucun angélisme. On n'est pas dans au monde des bons sentiments. De même, il y a François, il a son grand pote des cités, Saïd, qui est un caïd, etc., qui a été son grand ami. Ça va un peu se compliquer en raison des péripéties du roman. Il y a comme ça des tas de scènes qui sont déjantées, qui sont à la limite d'un grotesque très plaisant, qui sont parodiques. Moi, je te le disais l'autre jour, je pense que c'est un roman idéal pour les frères Cohen, par exemple. Ça me fait penser à certains films d'eux. Et puis, il y a des dialogues vifs, incisifs, tout ça est corrosif à souhait. Et puis, derrière ça, il y a une tendresse pour les personnages, que ce soit pour le François, le gars venu des Buers avec toutes ses idées
François un peu sophores,
ou que ce soit pour la jeune banquière. Il y a une histoire, on peut dire qu'il y a au départ improbable, il y a une histoire affective qui se tisse, une histoire d'amour. Et puis il y a quand même et en creux et évidemment sans aucun côté leçon de chose démonstratif et tout, il y a quand même une parabole un peu, enfin des choses qui font penser aussi à Bourdieu, c'est-à-dire des personnages qui comme ça viennent de cultures totalement, ont été structurés par des milieux totalement différents socialement et culturellement, qui donc normalement ne peuvent pas communiquer, mais tout ça n'est pas immuable, et ce qui leur arrive est comme une espèce de moment de transgression, un moment dialectique qui va faire, qui va provoquer... ces personnages, tous les deux, ils vont bouger. Ils vont bouger dans leur tête aussi.
Je pense que les auditrices et les auditeurs ont compris que Hervé, tu es fan de Jackie Schwartzman.
Écoute, j'avais déjà découvert Jackie Schwartzman avec Mauvais Coup, qui avait été publié à la Fosse aux Ours, et qui vient de ressortir en point, là, la collection de poches du Seuil, et où là, en plus, c'est aussi l'aisance avec laquelle Schwartzman peut se renouveler, parce que là, il avait un personnage qui, à l'inverse de François Fellman, c'était un acheteur d'une multinationale avec des idées de droite ultra-libérales, sans aucune morale, un macho misanthrope, et qui là aussi, à travers ça, qui lui aussi bougeait, et c'était déjà corrosif à souhait, on rigolait déjà beaucoup, et ça donnait à voir des tas de choses sur notre société d'aujourd'hui, tout en disant que, pour moi, en plus, c'est des livres qui sont du début à la fin, une éclate garantie pour le lecteur. Voilà. Alors oui, je suis très fan de Schwartzman. Oui.
Merci beaucoup pour cette découverte, Hervé. C'était donc « Demain, c'est loin » de Jackie Schwartzman, dans la collection Cadre noir du Seuil. Et c'était « Variation en noir » dans « Variation ». Donc une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh ben merci beaucoup Guy, voilà. Merci Bernard, et puis bonne lecture à tous.
Voilà, et donc rendez-vous dans un mois pour de nouvelles variations en noir.